Rural avec Lann Automobile.
Tout de suite, le grand journal de cette fin de journée, présenté par Adeline Courson. Bonsoir.
Bonsoir Muriel, bonsoir à toutes et à tous. À la une, ce soir, 3 ans de prison requis contre l'agresseur présumé du CHUM. Le tribunal correctionnel jugeait aujourd'hui le trentenaire accusé d'avoir menacé le personnel soignant des urgences avec une arme à feu le 21 avril dernier. Eux espèrent réintégrer le CHU. 6 agents hospitaliers étaient au tribunal administratif de Fort-de-France cet après-midi. Ils ont été radiés pour un droit de retrait jugé abusif par la direction. Les enseignants montent au créneau. Le dialogue avec leur direction semble leur rompu et leur santé mentale en pâtit. C'est ce que dénonce ce soir le syndicat SNUIPP. Quand les élèves de Sciences Po interrogent des personnalités politiques sur la démocratie, ce soir, le premier rendez-vous anti-causé permet aux étudiants de l'université de recevoir Edilène Lobo, ministre déléguée au Brésil. Dans l'actualité également, Gérard Depardieu convoqué devant la justice en octobre prochain. L'acteur est accusé d'agression sexuelle par 2 femmes lors d'un tournage. Et puis, après 7 mois de guerre, bientôt la trêve à Gaza. Une réunion avec les représentants d'Israël et du Hamas a eu lieu aujourd'hui en Égypte. L'arrivée du quintet aujourd'hui, c'était à Chantilly. L'As, le 14, le 10, le 11 et le 5. Il avait pointé une arme sur un médecin du CHUM. Un homme est jugé cet après-midi par le tribunal correctionnel de Fort-de-France. Le 21 avril dernier, il était entré aux urgences avec une jeune femme blessée et s'était agacé contre les vigiles et les soignants par impatience, allant jusqu'à menacer un médecin avec une arme à feu. L'agresseur présumé s'est défendu devant le tribunal. Selon lui, Florence Treuil, l'arme utilisée était une arme factice.
Effectivement, le prévenu, alors d'abord reconnaît les faits, mais a tenté de minimiser son comportement, notamment avec cette arme qu'il assure être factice, tout en reconnaissant quand même qu'il avait un vrai chargeur bricolé à l'intérieur de cette arme factice. Ce qui ne concorde pas avec les témoignages, tout comme son comportement. Pour le prévenu, il a sorti son arme, oui, mais ne l'a jamais pointée sur qui que ce soit, certainement pas le personnel soignant. Il a alors demandé à visionner les vidéos de surveillance de l'hôpital. Séance de visionnage, donc, dans la salle d'audience où l'on voit le prévenu aller et venir dans le sas des urgences, parfois avec l'arme à la main et en effet canon vers le bas. Mais comme le souligne la procureure, ces vidéos ne montrent pas tout et les témoins affirment le contraire. Les réquisitions d'ailleurs du ministère public sont de 3 ans d'emprisonnement ferme, la révocation du sursis probatoire d'une peine antérieure qui pourrait ajouter 8 mois à sa peine et une interdiction de détenir ou porter une arme pendant 15 ans. Parmi les parties civiles, l'infirmière d'accueil et le médecin demandent chacun 6 000 euros de dommages et intérêts.
Florence Treuil au palais de justice pour RCI. 6 agents radiés du CHU de Martinique avaient également rendez-vous avec la justice cet après-midi. Ils avaient saisi le tribunal administratif pour dénoncer la décision de l'établissement de santé en janvier dernier. En pleine crise Covid, ils avaient fait valoir leur droit de retrait face à l'obligation vaccinale et l'avaient poursuivi au-delà de son obligation jusqu'en 2023, des actes d'abandon de poste pour le CHU de la Martinique. L'avocate des soignants conteste la radiation des agents sur la base de la jurisprudence. Elle pointe le fait que les agents visés sont affiliés à l'UGTM, l'un des syndicats mobilisés pendant la crise. Serge Haribaud, le secrétaire général de l'UGTM Santé, a la même lecture de cette affaire. Il est au micro de Jessica Dantin.
C'est une attaque frontale, on l'a toujours dit. Nous, entre nous, on en parle, on sait très bien qu'il y a une stratégie de la direction d'éviter de mettre une éviction sur les responsables de l'UGTM Santé. Ce ne sont pas simplement de simples syndiqués, ce sont des dirigeants. Et je crois que cette volonté, elle est affichée parce que quand on commence à poser trop de problèmes au CHU de Martinique, c'est la formule adoptée, on vous écarte, on vous met au placard. Mais c'est très difficile de mettre un syndicat ou des syndicalistes au placard, donc ils ont préféré de les évincer. C'est tellement criant que ça se situe à une période où est-ce que le secrétaire général rentre en retraite, donc c'est début août, et c'est là que les attaques arrivent. On ne reconnaît pas la légitimité du secrétaire général dans les négociations. On ne veut plus négocier. D'ailleurs, on a des négociations qui sont en cours depuis novembre 2023 qui n'ont pas abouti parce qu'ils attendaient que les radiations soient vraiment effectives.
Le secrétaire général de l'UGTM Santé, Serge Haribaud, et du côté du CHU de la Martinique, l'avocate, dans sa plaidoirie, a réexpliqué que le droit de retrait ne doit être utilisé que pour un danger grave et imminent. La décision a été mise en délibéré. Une autre audience sera également programmée sur le fond du litige. Le SNUIPPFSU Martinique monte au créneau. Il dénonce la souffrance au travail d'une partie de son personnel enseignant. Depuis le début de l'année scolaire, les difficultés de relationnel se multiplient entre professeurs et direction. Malgré ces nombreuses alertes, le syndicat ne parvient pas à sensibiliser l'administration sur la santé des agents et interpelle le rectorat. Régine Bellet, co-secrétaire départementale du SNUIPPFSU, est au micro de Jessica Dantin.
Le mal-être que nous avons à dénoncer aujourd'hui provient de la lenteur des réponses qui sont attendues de l'administration. Nous avons à dénoncer des dysfonctionnements dans les relations au sein des équipes. Dans certains cas, il y a une absence de communication. Dans d'autres, il n'y a pas d'échange. Et ainsi, les décisions sont prises de manière autoritaire, alors qu'une école doit fonctionner avec son collectif de personnel. Lorsque l'administration doit prendre le relais, elle joue la montre et c'est ce que nous dénonçons aujourd'hui. C'est bien cette lenteur qui crée des malaises qui perdurent et des personnels à bout de souffle.
Un nouvel outil au service des patients de l'hôpital Clarac a vu le jour, un onco-lounge, le premier des Outre-mer, un accueil dédié aux personnes atteintes de cancer, totalement intégré au parcours de soins avec consultation médicale, espace thérapeutique et accompagnement personnalisé. Une amélioration du suivi médical pour les 100 patients en cours de traitement à l'hôpital Clarac, et ce, dès leur arrivée sur le site hospitalier, comme l'indique Peggy Dormois, coordinatrice de l'espace de rencontre et d'information à l'hôpital Clarac. Elle est au micro de Déborah Ambroisine.
Il y a des projets d'aménagement qui vont être faits. Le but, c'est donc d'accueillir les patients qui viennent en consultation à Clarac pour éviter qu'ils attendent à l'extérieur, parfois il fait très chaud, qu'après la radiothérapie, souvent ils sont à jeun, qu'ils puissent venir boire un café, un jus, un petit pain au chocolat, enfin une petite collation, et que l'attente soit plus agréable pour les patients.
Et vous, vous serez là?
Mon bureau donc, est là derrière, donc moi je suis là le matin de 8h30 à 15h30. Donc l'espace sera ouvert à ce moment-là. Après, je pense qu'on va réévaluer les horaires d'ouverture en fonction de l'accueil des patients. Les patients bien accueillis, c'est le commencement des soins en fait.
La ville de Fort-de-France dévoilera demain le nom de l'entreprise en charge des stationnements de paiement. Suspendue depuis 2018, la mesure sera de nouveau effective dans quelques semaines. Avant cela, les horodateurs du centre-ville devront être remplacés. Il sera également possible de réserver des places à distance. Une mesure pour assurer un roulement au niveau des stationnements, selon Maurice Fernet, directeur général des services de la ville de Fort-de-France. Il répond à Yves Agelin.
Vous avez à peu près 1200 à 1300 places de stationnement sur voirie. Quand vous avez des véhicules ventouses qui sont stationnés de 6h du matin à 18h à la même place, ben forcément, vous ne favorisez pas la venue de la clientèle parce que vous n'avez pas une rotation des places de stationnement. Tout le monde se plaint du fait que de 6h, de 7h du matin, il n'y a plus de place au centre-ville. Lorsque le stationnement est payant, et ça, les habitants et les commerçants l'ont bien compris, lorsque le stationnement est payant, bon, vous avez une rotation des places. Et ça favorise bien évidemment la venue des chalands, sachant que vous avez aussi des facilités entre des catégories particulières qui sont prévues dans la tarification. On a pu expérimenter au cours de ces 3 années tous les inconvénients d'un stationnement gratuit, parce que vous avez aussi des personnes qui ne sont pas usagers du centre-ville, hein, qui se garent pour prendre la navette pour aller aux Trois-Îlets, qui se garent pour prendre aussi le TCSP et aller travailler dans d'autres communes. Voilà, donc c'était aussi ça, les inconvénients qui sont dénoncés par les usagers et particulièrement par les commerçants du centre-ville.
Et puis on vous en parlait en début d'édition, l'homme agresseur du CHUM qui avait pointé une arme sur le personnel soignant et un médecin notamment le 21 avril dernier était jugé aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Fort-de-France. Et bien le tribunal vient à l'instant de rendre sa peine. Il est reconnu coupable d'une peine de 3 ans ferme et le tribunal ordonne le maintien en détention. Ses biens ont été saisis, l'arme, le chargeur, les munitions. Il est également interdit de port d'armes pendant 15 ans. On poursuit avec le premier rendez-vous du Anti-Causé qui démarre en ce moment sur le campus de Schœlcher. Des étudiants en sciences politiques interrogent des personnalités et la première d'entre eux, c'est Edilene Lobo, ministre déléguée au Brésil, première femme noire à la tête du tribunal supérieur électoral, professeure de droit, militante historique du Parti des Travailleurs, avocate de Dilma Rousseff et Lula da Silva, rien que ça. Et parmi les sujets qui seront évoqués, la démocratie brésilienne, la lutte contre les fake news et les fraudes électorales, la question de l'instauration de quotas de femmes et de minorités ethniques en politique ou encore les violences de genre en politique. Un projet mené par Aurélie Roger, maîtresse de conférence en sciences politiques à la fac de droit de l'Université des Antilles. Elle répond à Cédric Catan.
Donc il y aura des échanges effectivement sur la question alors de tout ce qui s'est passé donc après la transition démocratique, toute la question de la consolidation démocratique, là encore hein, qui sont pas spécifiques à des trajectoires de sortie de régime autoritaire mais qui posent question et qui font écho pour l'ensemble des démocraties qui se trouvent confrontées aujourd'hui à des défis majeurs. Mais effectivement donc elle sera interrogée aussi sur cette question sur le premier mandat de Lula, sur celui de Dilma Rousseff qui s'est achevée de façon compliquée sur le plan judiciaire. Elle a été impliquée aussi aux côtés de Dilma Rousseff. Donc il y aura des interrogations effectivement là-dessus et sur aussi la question de comment est-ce qu'on fait en sorte que les démocraties de façon générale, la démocratie brésilienne singulièrement, ne bascule pas dans un sens autoritaire. Alors ça fera écho aussi évidemment à des événements qui sont des événements d'autres pays. Enfin, tout ça, c'est vraiment des enjeux qui sont d'actualité et pas seulement pour le Brésil.
Justine Bénin, dans La Tourmente, la coordinatrice interministérielle contre les violences faites aux femmes en Outre-mer, est mise en cause par plusieurs collaborateurs. Selon Paris Match, 3 mains courantes auraient été déposées par des membres de son cabinet pour harcèlement moral et violences physiques. L'inspection générale de l'administration était saisie par son ministère de tutelle, Aline Druel.
Des coups à l'épaule, des cheveux et oreilles tirés, soit parce qu'elle était contente, soit parce qu'elle était en colère et fatiguée. Voilà, selon Paris Match, quelques éléments contenus dans les mains courantes déposées la semaine dernière au commissariat du 7e arrondissement de Paris. Des déclarations de plusieurs membres de l'équipe de Justine Bénin qui auraient ainsi évoqué des punitions, vexations, mensonges et gestes violents à leur encontre de la part de la coordinatrice interministérielle dont la mission doit s'achever mi-juin prochain. Des délais intenable, une pression sans se soucier de la santé mentale et physique serait aussi mentionnée dans les procès-verbaux consultés par nos confrères de Paris Match. Des déclarations prises très au sérieux au ministère des Outre-mer. L'entourage de Marie Guévenoux nous a indiqué ce matin que, je cite, « les faits évoqués ont été portés à la connaissance de son cabinet lundi 22 avril, soit 2 jours avant le dépôt des mains courantes, qui, comme le rappellent encore nos confrères, ne sont pas des plaintes mais des déclarations unilatérales. » Un point de situation complet a immédiatement été fait. Le lendemain, sur la base de ce point, il a été demandé que l'inspection générale de l'administration soit saisie. Nous a-t-on encore indiqué au ministère des Outre-mer, une saisine qui a été officialisée selon la procédure dans les 2 jours suivants. Contactée, Justine Bénin n'a pour l'instant pas donné suite à nos sollicitations. Paris, Aline Druel, RCI.
L'actualité sportive en Martinique à présent est la 3e étape du Tour cycliste junior. Aujourd'hui, cela se passait entre Le Prêcheur et Saint-Pierre. On prend tout de suite la direction du Nord Caraïbe où l'on vous retrouve. Georges-Claude, bonsoir.
Bonsoir Aline.
Les coureurs sont donc arrivés à De Paz, c'est ça?
C'est cela, la distillerie De Paz dans un cadre champêtre. Plutôt agréable et nouveau, une innovation de la JC231 qui organise cette 18e édition du Tour Junior de Martinique. 10 km à effectuer, on le disait tout à l'heure, 10 km. Et dans cet exercice, c'est le jeune Evan Fradin du Racing Team Hexagone qui termine en tête avec 14 minutes 34 secondes 21 centièmes. À 13 secondes, il y a Yann Dubois du même club. Et puis, à 15 secondes, Alexis Dolter du VVC, l'équipe de Vannes. Alexis Dolter, c'est l'ancien porteur de maillot jaune. Alors, ça change quoi au classement général? Ben, ça change que toujours Loïs Jean-Baptiste Simon, qui lui arrive avec 15 minutes 28 secondes 37 septièmes à l'issue de son contre-la-montre. Eh bien, ça se trouve qu'il est toujours maillot jaune. Il est du team Crédit Mutuel Garage Premier. Il va devancer de 46 secondes Alexis Dolter, l'ancien maillot jaune du VVC, et puis 47 secondes sur le coureur Yann Dubois de Racing Team Hexagone. Donc une course particulièrement disputée par ces jeunes et qui va continuer demain, puisque demain c'est la quatrième étape, une étape qui partira du Robert pour arriver à Rivière-Pilote. On aura 97 km à effectuer. On partira à 13h30. Vous comprenez qu'avec un retard de 46 secondes, rien n'est joué. Gageons que demain, il va y avoir du spectacle. Et rappelons que ça va se poursuivre jusqu'à mercredi.
Merci Georges-Claude, on suivra ça bien entendu avec vous. Donc rendez-vous demain 13h30 pour le lancement de cette quatrième étape. Air Caraïbes soutient les athlètes des Antilles-Guyane à l'occasion de sa conférence annuelle ce matin à Paris. La compagnie aérienne a présenté sa Team X, 6 athlètes antillo-guyanais sélectionnés par la triple médaillée olympique Marie-Josée Pérec. Tous bénéficient de billets d'avion offerts par la compagnie aérienne afin de leur permettre de se ressourcer chez eux. Nicolas Ledin était sur place pour RCI.
Ils sont vraiment nombreux à avoir du talent, donc ce n'était pas facile.
Choix cornélien pour Marie-Jo, qui n'a pu retenir que 6 athlètes dans cette Team TX, qui faisait pourtant envie à de nombreux sportifs, évidemment. Alors l'immense championne a fait, comme souvent, elle a laissé parler son cœur.
On a vraiment choisi des athlètes qui ont des histoires assez difficiles, qui ont besoin vraiment de ce soutien. Moi, ça m'a beaucoup manqué de ne pas pouvoir retourner à la maison. On a besoin d'aller se ressourcer pour repartir et pour être plus fort. Il faut bien les accompagner et les chouchouter.
Les chouchous sont la boxeuse martiniquaise Davina Michel, le para-judoka guadeloupéen Romuald Raboteur, les Guyanais Danny Dan en breakdance et Jemima Joseph en sprint, et deux autres guadeloupéens pressés d'en profiter.
Rentrer, aller voir ma famille, manger ce que j'aime, parce que ça fait toujours du bien, profiter quoi.
Kenny Livez, l'un des grands espoirs du judo français, compte beaucoup sur ce partenariat.
Ça retire une charge mentale, c'est-à-dire que la performance, ça passe par plein de paramètres, j'ai besoin de me concentrer principalement sur mon sport, donc ayant, on va dire, cette facilité pour rentrer, bah, ça me donne quelque chose de moins à penser, où je sais que si j'en ai envie, si mes compétitions et mes stages me permettent, bah oui, là je peux rentrer plus facilement.
Même envie du pays pour la dernière de la liste.
Je me ressource énormément, je vois ma famille, je mange beaucoup, et les randos, ouais, très important.
Axel Etienne, coureuse de BMX Race, enchantée qui plus est d'être marrainée par Marie-Josée.
Ma Marie-Jo, elle est super, elle est vraiment super gentille, donc j'avais rencontré notamment aux étoiles, et je sais que ma mère, quoi, elle me disait, ah mais tu parle à Marie-Jo, elle était là, ah, il faut... J'avais fait une photo avec elle, donc c'est une très très grande athlète. Je suis très très fière qu'elle ait pensé à moi, et c'est une super aide.
Gageons que ce coup de pouce venu de l'aérien saura donner des ailes à cette Team TX en vue de ses Jeux de Paris et des suivants.
Le reportage de Nicolas Ledin. Il est 18h17 sur RCI. Dans un instant, Gérard Depardieu convoqué devant la justice pour agression sexuelle. L'acteur a été entendu à 10h aujourd'hui en garde à vue dans deux nouvelles affaires.
Leclerc.
Jusqu'au 12 mai, vos Leclerc défendent encore et toujours vos super pouvoirs d'achat avec le paquet de 250 g de riz basmati taureau ailé à seulement 2,49€, soit 9,96€ le kilo. Ou encore la barquette de 400 g de gambas royale rouge surgelée d'Espagne à 13,75€, soit 34,38€ le kilo. En plus, au passage en caisse avec ce produit, cagnottez 25% avec la carte Leclerc. Pas mal, non? Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc.
Elle est musclée, avec un cuore qui bat forte, de 280 chevaux. L'Alfa Romeo Stelvio, elle est née dalla compétition. L'Alfa Romeo Stelvio, c'est plus qu'un SUV, c'est una leggenda vivente. Alfa Romeo, emozione intensa, chez Sodiva.
Carrefour.
Chers clients, suite aux négociations commerciales menées avec nos fournisseurs, à la baisse du coût de certaines matières premières et à notre volonté de vous proposer les meilleurs prix, nous avons baissé les prix permanents de plus de 1000 produits alimentaires, d'hygiène et d'entretien. Par exemple, le litre d'huile Le Sieur est maintenant à 3,55€ au lieu de 4,55€, soit une baisse de 21%.
Le détail et les conditions de cette baisse de prix sont disponibles sur carrefour-martinique.com.
Carrefour, j'ai choisi.
La suite du journal. Adeline Courson.
Il est 18h19 sur RCI. Gérard Depardieu, jugé en octobre prochain pour agression sexuelle. L'acteur est poursuivi par deux femmes. Il est soupçonné de les avoir agressées sexuellement en 2021 sur le tournage. Dans ce contexte, l'homme a passé plus de 10 heures au 3e district de la police judiciaire à Paris. À la suite de quoi, Gérard Depardieu s'est vu remettre sa convocation devant le tribunal correctionnel. Sophie Neumeyer, que sait-on précisément des faits reprochés à l'acteur ?
Alors, le géant du cinéma français a été convoqué à 8h ce matin dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte après deux plaintes distinctes déposées par deux femmes qui l'accusent d'agression sexuelle sur deux tournages différents. D'un côté, une décoratrice qui affirme avoir été agressée sexuellement en 2021 pendant le tournage des Volets Verts de Jean Becker. Elle dit que l'acteur l'a notamment attrapée avec brutalité et pétri la taille, le ventre en remontant jusqu'à ses seins. L'autre plaignante évoque des faits commis en 2014 sur le tournage d'un court-métrage de Jean-Pierre Mocky, le magicien. Une enquête distincte de l'information judiciaire déjà ouverte et qui a valu en 2020 à Gérard Depardieu une mise en examen pour viol et agression sexuelle sur la jeune comédienne Charlotte Arnoux. Autant d'allégations que l'acteur conteste formellement jamais au grand jamais je n'ai abusé d'une femme, a écrit Gérard Depardieu dans une lettre ouverte au Figaro en octobre dernier.
Sophie Neumeyer. À Paris toujours, les forces de l'ordre sont intervenues à l'université de la Sorbonne. Une cinquantaine de militants pro-palestiniens s'y étaient installés avec des tentes à l'intérieur et à l'extérieur de l'université du 6e arrondissement. Un peu plus tôt, 300 personnes s'étaient rassemblées dans le bâtiment, parmi lesquelles des élus de la France insoumise. La plupart des militants se sont dispersés dans le calme peu après 18h heure locale. Le conflit justement au Proche-Orient, Israël et le Hamas, par personne interposée, tente de trouver une trêve. Une proposition de cessez-le-feu dans la bande de Gaza a été présentée au Hamas. Il s'agit en fait d'une contre-proposition de l'État hébreu, selon le ministre britannique des Affaires étrangères, qui affirme qu'il s'agit en fait d'une trêve associée à la libération d'otages et de prisonniers. Alors, quels sont, Émilie Beaujard, les détails associés de cette contre-proposition ?
Alors, selon plusieurs sources, l'accord porterait sur la libération de 30 ou 40 otages, les femmes, les enfants, les malades et les plus âgés. En échange, des prisonniers palestiniens seront libérés. Si un accord est trouvé, alors il y aura d'autres négociations sur la fin des hostilités. L'Égypte, le Qatar et les États-Unis pressent le Hamas d'accepter cette proposition, sauf que le groupe armé palestinien a un autre agenda. Lui, il veut négocier un cessez-le-feu permanent et le retrait total des troupes israéliennes de Gaza, ce qu'Israël refuse, assurant que des hommes du Hamas sont cachés à Rafah et que donc un arrêt des combats est impossible.
À Gaza, justement, dans le sud à Rafah, une offensive de l'armée israélienne est attendue, Émilie.
Oui, et où 1,5 million de personnes sont réfugiées, notamment à l'ouest, sur la zone côtière, dans des tentes. Selon un journaliste sur place, des Palestiniens commencent déjà à évacuer cette zone. Ils craignent une offensive israélienne, d'autant qu'il y a eu plusieurs bombardements ces derniers jours sur Rafah. La pression militaire s'accentue donc. D'ailleurs, Benjamin Netanyahou a menacé de lancer son offensive si un accord de trêve n'est pas signé au Caire.
L'actualité politique à présent et ce duel face à face Attal-Bardella en vue des élections européennes. La liste de la majorité est en difficulté dans les sondages pour les européennes. Dans cette dernière étude BVA, Xite, la liste de Valérie Ayé est à 17%, loin derrière celle du RN et de Jordan Bardella à 31%. Dans ce contexte, la majorité a pour ordre de descendre dans l'arène, un ordre du patron Emmanuel Macron, William Galibert.
Oui, arrêtez de vous planquer. En résumé, c'est ce qu'Emmanuel Macron a lancé à ses troupes la semaine dernière, tellement la campagne de la majorité patine. Et le message a donc l'air d'être bien passé, puisque jusqu'ici, c'est contre Marine Le Pen et contre personne d'autre que le Premier ministre voulait ferrailler.
Il est tête de liste pour les européennes et président de son parti. Je suis Premier ministre. Madame Le Pen est présidente du premier groupe d'opposition au Parlement. À ce titre-là, c'est avec elle qu'il est légitime que je débatte.
Et pourtant, Jordan Bardella multipliait pendant ce temps les petites piques et se moquait de l'étiquette d'arme anti-Bardella collée sur Gabriel Attal au moment de son arrivée à Matignon.
Je préférerais que le président de la République déploie une arme anti-inflation, par exemple, ou une arme anti-insécurité. Je pense que pour le pays, ça sera peut-être un peu plus utile qu'une arme anti-Bardella, oui.
Attal, Bardella, Bardella, Attal, le match aura bien lieu. Ça ne sera pas du tout un duel inédit parce qu'ils ont déjà débattu une demi-douzaine de fois lors de la dernière présidentielle. Mais alors, ils n'étaient que de prometteurs lieutenants. Les choses ont bien changé. Pas de date pour l'instant, rien n'est calé.
Merci beaucoup, William Galibert, pour ces précisions. On termine avec les courses et le rappel du Quintet. Aujourd'hui, c'était à Chantilly, l'As, le 14, le 10, le 11 et le 5. Demain, Véronique vous conseille de jouer le 15, le 10, le 8, le 5, le 13, le 6, le 4 et le 16. 15, 10, 8, 5, 13, 6, 4, 16. Les courses seront à Fontainebleau pour le 3000 mètres et prix des grandes fontaines. 16 partants sont au départ. Pour le 2 sur 4, Véronique vous conseille le 10 et le 15. Le départ sera donné à 7h55. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, vous retrouvez Cédric Catan qui reçoit José Mirande. En tout cas, ce sera lundi politique dans un instant. Cédric Catan est derrière la vitre. Je ne sais pas ce qu'il me dit. À tout à l'heure.
Merci beaucoup Adeline Courson. On aura plaisir à vous retrouver tout à l'heure pour un dernier flash info de la journée. Ce sera à 19h sur RCI.
L'info continue sur www.rci.fm. RCI, c'est la vie.
Découvrez les offres Boost chez votre concessionnaire LAN Automobile avec des remises exceptionnelles. De quoi booster votre mobilité avec les véhicules sans permis Exam. Boostez votre confort avec les SUV électriques Subaru et CRS. Et boostez vos travaux avec les pick-up Isuzu D-Max. Jusqu'à 6000 euros de remise. Avouez que c'est du super boost. Venez vite en profiter dans votre concession LAN Automobile, les Hauts-de-Californie, Lamantin. Voir conditions en concession. Bouger, se déplacer, moins polluer.
La ligne Alerte Info sur RCI. Vous souhaitez nous contacter, nous communiquer une information? Composez le 63 31 31. Soyez les contributeurs de la rédaction d'RCI. 0596 63 31 31. La ligne Alerte Info de RCI. 63 31 31.
Mercedes-Benz.
Quand on est grand, tout paraît trop petit et mal adapté. Les sièges d'avion, trop petits. L'évier de la cuisine, trop bas. Votre lit, pas assez long. Mais quand vous rentrez dans un fourgon Mercedes-Benz Citan, tout est parfaitement adapté à vos besoins. Le nouvel e-Citan, fourgon 100% électrique, bénéficie d'un volume de chargement de 3,3 mètres cubes et c'est un partenaire de vie et de travail spacieux et fiable au quotidien.
En ce moment, profitez de l'offre en défiscalisation sur le Mercedes-Benz e-Citan 100% électrique à partir de 399 euros par mois.
Mercedes-Benz, the best on nothing.
Pensez à covoiturer. Offre en défiscalisation réservée aux professionnels éligibles, voire conditions en concession.
Le Caribea Fit Festival, le rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de la danse, du fitness et de la culture caribéenne. Soyez-y. Inédit en Martinique, le Caribea Fit Festival débarque le dimanche 5 mai pour une journée de pure énergie et de rythmes enflammés. Cadeaux et surprises, préparez-vous à être gâtés. Une expérience unique, jamais vue en Martinique, avec les meilleurs coachs, danseurs et DJ caribéens et internationaux. Réservez dès maintenant votre place sur Bizou. Et rejoignez le Caribea Fit Festival sur les réseaux sociaux. Le Caribea Fit Festival, un événement sponsorisé par On Air Fitness Le Lamantin, McDonald's, I Love Mobile, Centre Auto, UFR, Sicanti et RCI.
Vehicle. Wa respecte moi. Gardez moi, gardez bien, wa respecte moi.
Mwen talon peke sa fey mal.
Ka fey chinon man ka fey ta mwen.
Mwen talon peke sa fey mal.
Wa respecte moi.
Mwen talon peke sa fey mal.
Di ou fey chinon.
Mache mwen.
Nou
pas beau voter, nous pas égaux. Bah yo voix, mes voix, yo pas écho. On le beau placé pour placebo. Wabouma c'est masse, pas assez gros. Nous n'est assez pas yo, nous c'est gogo. Rasé, baga, effacé, bobo. Nous formaté, pas c'est robo. Labellisé, compte et logo. Télé, radio, réseaux sociaux. En bail nous mettez en sociaux. Que bon emploi, yo gâte boyo. Why bad vibe, bad rétro.
Il est temps de prendre un bon yaourt Mentlité.
Mentlité, yaourt Matinique. Fabriqué au verre près depuis 1952.
L'heure vous est offerte par Gédimat Martinique.
Gédimat, au cœur de l'ouvrage.
Bon début de soirée sur RCI, il est 18h30.
Grand maman, moi, non, Lise, t'es une raison. Il était toujours des gars, dis-moi, José, moi, j'ai l'as du grand coûté piti, piti coûté grand. Et je suis là, conti maman à savourer le nouveau yaourt Mentlité 1952, avec la bonne recette en temps longtemps. Comme quand j'étais petit, des pots en verre, du lait concentré, un yaourt ferme à la texture si particulière. Six saveurs inoubliables, le nature sucré et le nature, mais aussi les pots en verre, aromatisés aux arômes naturels de goyave, de coco, de citron et de vanille. Ouais, maman, ça bondonne.
Mentlité, yaourt, Matinique. Fabriqué au verre près depuis 1952. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. Mangezbouger.fr.
Gédimat Martinique est à vos côtés avec ses promos spéciales extérieures. Jusqu'au 4 mai, venez profiter de nombreux produits à des prix super promos. Retrouvez le carrelage extérieur 45 par 45 cm beige modèle City à 10,90€ le mètre carré ou la tôle ondulée 75 centièmes à 17,90€ le mètre linéaire. Toutes les promos sont à retrouver dans vos trois magasins Gédimat à Place d'Armes, Rivière Salée et Dillon avec la nouvelle entrée côté McDo. Gédimat au cœur de l'ouvrage.
RCI, c'est la vie.
RCI, le dit politique. Cédric Catan.
Tout de suite, lundi politique sur RCI. On retrouve bien sûr Cédric Catan. On retrouve aussi Philippe Dizer et leur invité. Bonsoir. Bonsoir Muriel et bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du lundi politique après Fonsadonie et le Nord la semaine dernière. Aujourd'hui nous partons dans le Sud, au Marin, avec un homme politique qui aura été plus que patient avant de toucher le Saint Graal en 2020. Élu pour la première fois en 1989 en tant que conseiller municipal aux côtés de Rodolphe Désiré, il est devenu l'un de ses plus acharnés opposants jusqu'au départ de ce dernier. Et puis vint le scrutin des dernières municipales pour que notre invité touche enfin au but. Un premier tour où il arrive en deuxième position pour une trentaine de voix et un vrai retournement de situation au second tour pour l'emporter de 300 voix environ. Lui, l'homme de gauche qui aura donc su s'entourer de personnalités de droite pour conquérir ce bastion du PPM. Mais entre-temps, il n'aura pas été inactif, tantôt instigateur du G20 avec la volonté de rajeunir l'offre politique avec Jean-Philippe Nilor comme figure de proue, tantôt membre du Grand Assemblé avec Alfred Marie-Jeanne, ce qui lui a permis d'être élu conseiller territorial de la CTM dans l'opposition, tantôt opposé à l'ancien président de l'Espace Sud, pourtant membre du Grand Assemblé comme lui. Une trajectoire pas toujours lisible, mais lui n'en a cure, habité par de grandes ambitions, il ne ménage pas ses efforts durant ce premier mandat tant attendu. Notre invité ce soir est le maire du Marin, José Mirande. Bonsoir José Mirande.
Bonsoir, bonsoir Monsieur Dizer, bonsoir Monsieur Catan et auditrice, auditeur de RCI.
Et pour m'accompagner, notre chroniqueur Philippe Dizer. Bonsoir Philippe Dizer.
Jean-Philippe s'est déjà pris. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Déjà un mot, José Mirande, est-ce qu'on peut dire que vous êtes l'homme qui a fait un miracle, sortir la ville du rouge en un an? Est-ce que le redressement des finances de la ville du Marin, c'est votre plus grand succès de ces quasiment trois quarts de mandature?
C'est la normalité. Je ne parle pas de miracle. La normalité, gérer, c'est ça. C'est maîtriser les dépenses, c'est optimiser les recettes. C'est ce que j'ai fait, mais bien. Et on a su sortir de la ville après 2 ans de ce marasme financier qui durait depuis des années. Quand on gère une ville, il faut avoir l'argent pour le mettre dans le budget. Si on n'a pas l'argent, il ne faut pas le prévoir au budget. S'il n'y a pas de recettes, il ne faut pas faire de dépenses. Simplement ça, mais la difficulté pour nous était de boucher le trou avant de commencer. Il avait 6,5 millions de trous à boucher. On l'a fait avec brio. Et aujourd'hui, nous sommes contents de la ville du Marin. Se porte bien financièrement.
Philippe Dizer.
C'est une entrée en matière assez directe. Au fond, ce que vous dites en substance, c'est il y avait avant moi un mauvais gestionnaire. Il suffisait simplement de gérer de façon, rigoureuse,
je n'ai pas dit mauvais gestionnaire, il a géré, puisque les Marinois votaient pour lui pendant 4 fois, j'étais candidat, et 3 fois, j'étais battu. Donc,
vous semblez, à la question de Cédric Catan, qui parle de miracle, vu la situation que vous décriviez au moment de la campagne, vous semblez résumer ça juste à un acte de gestion.
C'est un acte de gestion, tout simplement. Vous savez, il faut savoir mettre les priorités au bon endroit et puis arrêter d'acheter des voix. Ça coûte cher. Si à chaque fois qu'on achète un bulletin de vote, il faut donner, à un moment, ça coûte cher à la collectivité. Je le dis avec force, parce que je constate ça, c'est pas qu'au Marin, on trouve des villes surendettées parce que on fait pour faire plaisir, on fait pour qu'on soit au pouvoir. Je pense que la chose qui est essentielle, c'est de mettre en place les équipements nécessaires à une ville pour que la ville puisse fonctionner et que les citoyens, les administrés soient satisfaits. Après, ils auront le droit de voter comme ils veulent. C'est ça qui est important. Mais on ne peut pas et tout le temps écouter ce qu'on nous dit pour dire oui, je dis oui à tout. Et à un moment, on dérape partout. Et autre chose, quand on a des programmations sur le plan de l'investissement, il faut pas engager des opérations d'investissement si on n'a pas l'argent pour le faire. Il faut pas l'entamer non plus parce qu'on met en détresse des sociétés. Quand on trouve une file avec 6,5 millions de dettes, ça veut dire qu'il y a etc. d'entreprises soit disparues d'ailleurs, qui ont beaucoup souffert pendant quelques années. Et ce que je dis, c'est pourquoi je dis c'est la normalité de bien gérer une ville, parce que toute une chaîne derrière, c'est très important ça.
Mais quand on entend certains maires qui se plaignent de sous-dotation, de difficultés, de manque de recettes, c'est pas si facile de gérer finalement ce budget municipal. Avec, vous l'avez dit, il y a beaucoup de demandes des administrés. Il faut aussi répondre aux demandes des administrés en termes d'infrastructures, en termes de routes, d'entretien, de quotidien.
Monsieur Catan, j'ai organisé le Marin en conseil de citoyens pour dire aux citoyens, c'est pas parce que vous voulez que vous aurez demain. Un budget, c'est un an. On a 15 millions de recettes de fonctionnement pour la ville du Marin, c'est pour un an. Donc, on peut faire un an de travaux, de choses avec ce budget-là, en sachant que 10 millions de cet argent revient à la charge du personnel. Il reste 5 millions pour faire ce que nous avons à faire. Si nous expliquons à nos concitoyens, il faut être patient, c'est une programmation pluriannuelle qui permettra d'obtenir des résultats. On ne peut pas avoir tout de suite et il faut avoir le courage de dire non, ce ne sera pas pour demain, ce sera pour après-demain ou même dans un an ou deux.
Alors, monsieur le maire, permettez-moi d'insister, mais vu la facilité avec laquelle vous énoncez, vous dites une gestion de la normalité. Oui. Je reviens à la question de Cédric Catan. Vu le nombre de communes en Martinique qui sont en difficulté financière, ce que vous énoncez, finalement, pourrait s'apparenter à, même si vous ne voulez pas le reconnaître, mais je le dis à votre place, ce sont des problèmes de gestionnaires qui ne sont pas au niveau de ce qui est attendu de...
Alors, je sors, vous savez d'où je sors. Je suis directeur de société, directeur général de société depuis des années. C'est ce que je fais au quotidien depuis très longtemps. Donc, quand je viens à la ville, il y a le côté politique, il y a le côté relationnel, il y a le côté administré, la relation avec la population, mais il y a le côté de gestion. Et je crois que c'est la chose la plus importante aujourd'hui dans un climat contraint financièrement. Et aujourd'hui, je ne fais qu'appliquer les règles que je connais. Par exemple, je sais que j'aurai pas le préfinancement de l'AFD, mais je sais qu'il y aurait des factures à payer. Mais il faut anticiper. J'ai anticipé un prêt relais avec la banque, mettre une ligne de trésorerie en place avec notre banque pour anticiper pour ne pas laisser les entreprises sans payer. Parce que quand on laisse les entreprises sans payer, on enfonce la Martinique tous les jours. Et cette anticipation financière, cette ingénierie financière que j'appelle de mes voeux dans les collectivités, ça permettrait de sauver beaucoup de choses.
Vous avez parlé de l'AFD, l'Agence française de développement. Vous avez signé en grande pompe une convention avec l'AFD en 2021. Cette convention sur le préfinancement qui portait autour de 14 millions d'euros, qui notamment sur pour les projets notamment de reconstruction d'écoles. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi, justement, vous avez eu un quiproquo, il y a eu de l'eau dans le gaz entre vous et l'AFD?
Vous savez, il ne peut pas avoir de l'eau quand on signe une convention avec quelqu'un, c'est des contrats.
Vous l'avez cassé, la convention?
La convention est arrêtée, puisque le but de la manœuvre, c'était de sauver les fonds européens. Le fonds européen, c'était décembre 2023. Il s'est arrivé un moment où les projets ont coûté un peu plus cher. Donc, ils avaient ce qu'on appelle des avenants financiers. Les avenants financiers, on a demandé un petit peu à ceux qui pouvaient nous aider, l'État qui a apporté son concours, la CTM à travers des fonds européens. Et ces avenants financiers, l'AFD n'a pas voulu débloquer quoi que ce soit pour nous avant que ces avenants financiers soient réglés au niveau de la CTM. Quand bien même que la CTM l'avait validé et que c'était pas dans mes mains, c'était pas conventionné par écrit, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais avec l'AFD? Il me dit, je débloque pas pour vous. Il fallait payer de novembre à décembre 11 millions d'euros pour pouvoir sauver des Européens, des fonds européens. C'est ce que nous avons fait. Nous sommes allés chercher notre partenaire financier, plus le fonds propre de la ville. Nous avons payé 11 millions sans le concours de l'AFD. Mais après le 31 décembre 2023, nous n'avons plus besoin de l'AFD. C'était pour sauver les fonds européens.
Donc vous avez opté pour les prêts bancaires plutôt que le prix financement de l'AFD.
Alors, on a opté pour une partie en prêt bancaire, puisque c'était prévu déjà dans le pacte qu'on avait fait avec l'AFD. Il y avait du préfinancement et du financement. Mais ils ont calé sur le financement que sur le préfinancement. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que l'ambiguïté de la chose, c'est que l'avenant financier que je devais avoir pour remettre à l'AFD au mois d'octobre a été signé en février 2024 par la CTM. Donc, il fallait que, au niveau de la CTM, que cet avenant financier me soit donné au moment où on l'avait voté par les élus, qu'on le donne à l'AFD.
Vous regrettez que ça ait traîné aussi, à ce niveau?
Ah, mais c'est la catastrophe. Mais c'est de là que vient la catastrophe. Si ce qu'on a voté à la CTM en disant OK pour cet avenant financier, ça veut dire que c'est acté et cette convention signée au mois d'octobre, au mois de novembre, nous envoyons ce document à l'AFD qui remet en route. À ce moment-là, on peut préfinancer pour nous ces 16 millions prévus. Donc, vous voyez, c'est là encore, j'avais anticipé, je me suis dit si jamais ça ne marche pas, j'avais déjà contacté une autre banque pour pouvoir passer le cap. Donc, nous avons sauvé beaucoup de fonds européens parce qu'on avait su payer les entreprises.
Alors, au titre de ce que vous avez fait, et c'est vrai, la Chambre régionale des comptes salue la trajectoire de la ville du Marin et considère d'ailleurs qu'il n'y a plus lieu d'avoir une espèce de regard un peu accru sur vos finances. En revanche, la Chambre régionale des comptes dit la chose suivante. Vous avez eu effectivement une stratégie de recettes de fonctionnement dynamique, des dépenses de fonctionnement que vous avez maîtrisées, mais elle dit aussi que vous avez mis en place une stratégie de cession immobilière ambitieuse. C'est quelque chose que vous assumez d'avoir cédé des terrains appartenant à la ville du Marin pour redresser vos finances?
Pas du tout. C'est la Chambre régionale des comptes, vous l'avez interprété comme vous voulez, il fallait l'interpréter avec des chiffres.
Je vous pose la question, non, monsieur le maire.
Non, je réponds. Il fallait l'interpréter avec des chiffres. Depuis que je suis arrivé à la ville du Marin, j'ai acheté 5,5 millions de terrains. J'en ai vendu 6,5. Depuis que je suis arrivé à la ville du Marin a acheté.
Monsieur le maire, ça n'est pas une condamnation, c'est une question que je vous pose. Certains élus à cette table n'assument pas les cessions de terrain dans leur stratégie de redressement de leurs finances. Ma question, c'est est-ce que c'est quelque chose que vous assumez?
Mais
ça n'est pas une accusation.
C'est pas une accusation, c'est une mauvaise interprétation de la Chambre. C'est ce que je dis là. La Chambre régionale des comptes dit, effectivement, il y a eu dans le redressement 1,5 million de terrains vendus pour pouvoir redresser 6,5 millions. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est pourquoi je dis, et je répète parce que je l'entends sur le territoire marin aussi, nous avons bien vendu 6,5 millions de terrains, mais la vente essentielle est arrivée de 4 millions d'euros après le redressement de la ville. Après le redressement de la ville, puisque nous avons dû voter une décision modificative avec un excédent de 4 millions. Parce que cette manne financière est tombée, parce que la ville, nous avons identifié un autre terrain à acheter en cédant celui-là. Ce qui fait que la remarque qui était faite, justement, qui était sous interprétation, comme vous le dites, effectivement, c'est bien ce qui est marqué. Vous le dites, c'est ce qui est écrit. Et cette partie financière de vente de terrain, c'est 1,5 million. Oui, c'est vrai. Nous avons vendu, pour pouvoir redresser la ville, 1,5 million de terrain. Mais cela veut pas dire que nous avons dilapidé le foncier.
Ça n'est pas mon propos, monsieur.
Je sais, mais j'explique. Non. Parce que, à travers votre propos, je réponds à beaucoup de dérogations que j'entends un peu partout. Et c'est pour ça que je profite de l'occasion, puisque l'occasion m'est donnée de le dire. C'est que nous avons effectivement vendu des terrains, mais nous avons acheté des terrains pour faire nos écoles. On a bien acheté des terrains, on les avait pas. Et nous avons cédé des terrains qu'on n'avait plus, on n'avait plus l'usage pour acheter des terrains en perspective des projets futurs de la ville.
D'ailleurs, la chambre régionale des comptes parlait de conditions favorables à un redressement financier eu égard justement à ce patrimoine financier, patrimoine foncier.
La chambre dit que je vous dis sur les 6,7 millions. C'est bien l'effort. Alors, je vais vous le dire.
La Chambre ne vous fait pas de reproches, monsieur.
Non, c'est juste une observation.
Au contraire. Attendez. Non, mais soyons clairs. Je parle de l'avis numéro 2022-0030. Le redressement financier de la commune du Marais se fonde sur une stratégie de cession immobilière ambitieuse. Elle ne critique pas votre action.
Ce n'est pas le cas. Vous comprenez ? Ce n'est pas été ça. Il a fallu économiser 1,5 million sur le budget 2020, quand nous sommes arrivés. L'année d'après, nous avons économisé 1,2 million sur le budget. L'année d'après, on a, 2022, on a économisé, etc. Et on a fait une déchéance quadriennale pour 1,5 million. Ce sont ces chiffres-là qui ont permis le redressement et 1,5 million de fonciers. C'est pourquoi je dis...
Donc si même quand la Chambre salue votre action, vous la
remettez en cause. Je n'ai pas besoin de la Chambre régionale de compte pour interpréter ce que je fais. Je n'ai pas attendu
mais
la Chambre.
Mais elle salue votre action, monsieur le maire.
Mais très bien, ça m'a fait plaisir. Mais je n'ai pas besoin de tableau d'honneur pour pouvoir gérer, puisque quand je suis dans l'entreprise, on n'a pas de tableau d'honneur. Hein. Donc, on a fait ce qu'il fallait parce que gérer la situation de la ville. Et en plus, il faut dire que c'est une situation que nous avons appréhendée avant d'arriver aux affaires. Puisque on a mis près de 20 ans pour y arriver.
Il est 18h44 dans ce lundi politique. Nous recevons le maire du Marais, José Mirande. On va parler, on continue à parler chiffres et en tout cas gestion de la commune. La gestion du port de plaisance aujourd'hui, est-ce que vous souhaitez clairement reprendre la gestion de ce port de plaisance au Marais?
Alors, il y a un port de plaisance qui est sur une délégation de service public en ce moment.
Jusqu'en 2026?
Jusqu'en 2026. Et on va faire les arbitrages. Il faut savoir que la ville du Marais a déjà préparé le terrain pour savoir quelle est la meilleure stratégie de demain. Je ne peux pas répondre à ce soir, de dire on a choisi telle option par rapport à telle autre. En tous les cas, nous sommes fin prêts pour le changement.
Alors, on vous demandera pas quel est votre choix, mais on peut vous demander ce qui a votre préférence.
En fait, quand la préférence, c'est l'intérêt du marin. Aujourd'hui, j'ai mis les outils en place. Vous savez bien qu'au marin, nous avons créé ce qu'on appelle une SPL, une société publique locale, sud-nautique, qui est en capacité de reprendre le port de plaisance pour nous-mêmes. Ça veut dire qu'avec une société à droit privé, mais qui appartient à 100%, à 98% à la ville du Marais, à 2% à la ville des Anzarlais, pour l'instant. Donc on a cet outil-là, mais on a aussi une possibilité de relancer une DSP de manière générale, puisque cette DSP arrive à sa fin. Donc on peut aussi envisager. Aujourd'hui, les deux possibilités sont sur le plateau, sont sur la table, et c'est à nous de voir quel est l'intérêt, l'intérêt de la ville du Marais dans tout ça.
Justement, l'intérêt, il doit être financier, certainement. Vous espérez, vous supposez que si la SPL reprend, c'est-à-dire que finalement les recettes seront plus importantes que lors d'une DSP?
Oui, bien évidemment, mais on a.
C'est ça le fond du problème.
Oui, on a d'autres choses à ne pas faire. Vous l'avez dit, quelque chose de très intéressant. C'est pas que sur le plan financier. Le développement du port du Marais doit être un développement durable. L'aspect sécuritaire, l'aspect social, l'aspect environnemental.
Vous voulez dire qu'en tout cas, ce n'est pas le cas pour le moment?
C'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Vous avez vu l'état de, la conséquence de la présence de ce port sur le territoire du Marais. C'est pour ça que vous avez vu ce que nous sommes en train de faire. Ce grand projet de schéma directeur de mouillage dans la baie du Marais que nous sommes en train de réussir.
Vous le dites aux concessionnaires, justement, actuels. Vous êtes en conflit avec eux?
J'ai pas de conflit. Je suis lié par un contrat. Je suis lié par un contrat. Ben, quand ça va pas, il y a un endroit où il faut aller, il faut aller au tribunal quand ça va pas. Ben, c'est peut-être le cas en ce moment, mais
justement, en ce moment, il y a des procédures. Vous n'êtes pas d'accord sur tout. Non, comment ça se passe?
Je suis d'accord sur le contrat que je gère. Et quand le contrat n'est pas géré, je dois faire ce que je dois faire.
Sur quoi vous n'êtes pas d'accord et sur quoi vous avez attaqué le concessionnaire actuel?
Je l'ai pas attaqué. Je suis attaqué par une réquisition du procureur me disant que il y a des recettes qui sont pas arrêtées à la ville.
Je tombe. Des recettes qui ne sont pas
arrivées à la ville. C'est la première fois que j'en parle publiquement. Mais des recettes sont pas arrivées à la ville, mais moi, je tombe des nues d'une société que je ne connais pas. Et je fouille effectivement. Ils ont eu raison de me sonner. Je fouille effectivement. Je trouve que, effectivement, il y a une société qui fait partie de la concession, qui a une délibération de concession. Malheureusement, j'étais pas là le jour du conseil municipal où ça a été voté dans le temps, même si j'étais opposant. Effectivement, il y a quasiment 500 000 euros qui n'a pas été perçu par la ville depuis 2013. J'étais pas là. Bon. Bon, ceci étant, j'assume. Donc, je fais ce qu'il fallait. Mais aussi, il y a une grosse part de la taxe de séjour qui n'a pas été
reversée
à la ville. Là aussi, je gère ma DSP.
Vous estimez que le manque à gagner de combien?
Pas un manque à gagner, c'est un dû. Pas un manque à gagner, c'est un dû. On pèse les mots. Et aujourd'hui, c'est un million. On va dire c'est un million. Ouais.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'allez pas vous prononcer sur ce qui va se passer après 2026, mais vous avez créé un cadre qui vous permettrait, si vous devez replacer ce qu'a dit Cédric Catan en régie, cette marina, vous pourriez tout à fait le faire.
Pas en régie, hein, j'ai pas dit ça.
Avec les
via une SPL, pardon. Pardon, désolé, c'est moi qui me mets.
Oui, on nous a, c'est normal.
Vous avez créé l'outil, je veux dire.
C'est l'anticipation qui compte. Aujourd'hui, nous pouvons parler en 2026 et avoir fait tous les audits possibles et imaginables pour savoir où nous allons. Effectivement, nous avons mandaté un cabinet d'audit qui nous a fait un travail démentiel depuis un an et demi que nous travaillons sur la sortie, les biens de retour, les biens de reprise, la négociation de... Enfin bref, ça va être lourd et tout ça, c'est prêt. C'est dans le tiroir. Nous attendons le moment pour pouvoir enclencher la procédure de la préparation de la sortie. De toute façon, il y aura une sortie. Il y a une sortie, une entrée, mais il y aura une sortie. Ce que je veux dire, je suis pas un maire cancanier. Je dis qu'il y a un tribunal pour gérer les problèmes qu'il y a entre nous. Et puis, je pense que les choses vont se passer dans des bonnes conditions.
Justement, restons sur l'eau. On sait que c'est une commune qui est pleinement tournée vers la mer. Même si vous souhaitiez d'ailleurs qu'elle soit un peu plus tournée vers la terre, pour l'heure, elle est encore beaucoup vers la mer. Comment vous gérez justement cette fameuse cohabitation entre les marinois, les plaisanciers, les habitants, la gestion globale du pourtour maritime?
Je pense que pour l'instant... On gère pas sans qu'on n'a pas le résultat attendu. Vous savez, ça n'a pas été une mince affaire de discuter avec les services de l'État pour reprendre en main la baie. Ça n'a pas été une chose facile, en sachant que la mer est libre. Et c'est difficile pour un préfet de dire qu'interdire le mouillage quand on ne donne pas de possibilité de mouiller. Et si on n'avait pas laissé la possibilité de mouiller, je n'aurais pas eu à gérer cette possibilité de mouiller aujourd'hui. Et c'est ce que je dis ça à mes collègues maires. Prenez les devants. Organisez vos espaces maritimes maintenant, parce que vous n'allez pas pouvoir enlever ce que vous aurez créé involontairement. Et c'est ce qui s'est passé au marin. En mouillage désorganisé, en mouillage sauvage ou forain, on a 350 bateaux. À Sainte-Anne, 350 bateaux, ça fait 700 bateaux. Et si vous rajoutez les 200 mouillages organisés déjà dans la baie du marin, plus les 900 à nous, ça fait un impact quand même sur le système.
Monsieur le maire, on sent à travers votre propos que finalement, le marin est un peu, alors je n'ose pas dire un laboratoire, mais en tout cas, un territoire où on sent qu'il y a nécessité d'un nouveau dialogue avec l'État, de nouvelles modalités de gestion, y compris sur le périmètre de l'État. C'est vraiment dans cette optique que vous situez.
Vous avez tout dit là. Parce qu'en fait, le nouveau dialogue avec l'État. Et nous avons obtenu ce dialogue-là, on avons obtenu un consensus. L'État nous dit, OK, vous avez proposé des zones de mouillage, nous allons interdire le mouillage forain dans l'ensemble de la baie parce que vous avez donné la jauge qu'il fallait. Donc ça, c'est à travers des discussions. Ça a duré un an, mais nous avons abouti à des choses.
Et vous êtes inflexible.
Réflexif, c'est-à-dire ?
Sur les décisions que vous prenez pour votre territoire, y compris s'il faut s'opposer à l'État ?
Non, on n'est pas flexible. Il faut trouver des consensus pour travailler. Il faut trouver des compromis pour travailler.
Qui va vérifier justement ce mouillage organisé ?
Qui va le vérifier ?
Quels sont les moyens ? Est-ce que ça sera la mairie aura les moyens justement
de gérer la SPL qui va gérer son mouillage. Hein. C'est surtout la SPL va gérer le mouillage. On va dire, on verra.
Vous aurez une police de la mer ?
Mais on a une police de la mer déjà. Et on est, faut regarder ce que nos policiers font au quotidien sous l'eau. On a déjà commencé ce travail-là. Si vous regardez, on a déjà commencé le balisage à côté du pré et on va continuer et vous allez voir le changement par rapport au mouillage organisé. Et la chose essentielle, c'est que non seulement le mouillage est organisé, on a un mouillage écologique, mais c'est fini le rejet dans l'eau. On a obligation de les eaux grises ou noires de les rejeter dans un système organisé. Il y a une barge qui va récupérer. Donc, il y a toute une organisation là-dessus.
Alors, Cédric Catan avait proposé qu'on revienne vers la terre et je vous invite à ce qu'on reste à terre. Une des choses qui fait la fierté du maire du Marin, je présume, c'est le développement commercial. Sauf que ce développement commercial, il est visible, il est parfaitement visible au Marin, mais il semble que sur le centre-bourg, ça sera plutôt le désert, y compris sur cette rue qui passe devant votre mairie, la rue Haussmann-du-Quesnay. Comment on fait aujourd'hui, quand on a un centre-bourg aussi délabré, les maisons, hein, je parle, souvent en vide, avec des propriétaires pas toujours identifiés, ou quand on les a identifiés, c'est compliqué, indivision, etc. Aujourd'hui, quelle est la solution du maire du Marin face à cette problématique ?
C'est une excellente question, monsieur Dizer. Vous savez, quand on a fermé une voie, la voie d'accès à la ville du Marin pendant 7 ans, la rue Schellcher, s'est enfermée. On a tué tout ce qu'il y avait à l'intérieur, puisqu'on ne pouvait pas rentrer dans le bourg. La rue Schellcher, c'est la rue qui mène vers l'église, qui irrigue le bourg. C'est enfermé parce que, bon, le marasme financier est passé par là, la ville ne pouvait pas refaire cette voie-là. On a fermé, on est passé de 76 commerces à la rue Victor Duquesne, Haussmann Duquesne, à 4. Et 4 petits commerces aujourd'hui. Et 67, aujourd'hui, nous sommes sur un plan de revitalisation du Beau. Il y a 80 maisons, habitations abandonnées dans le Beau. 80.
On fait quoi avec ces maisons?
Non, alors la ville, j'ai écrit à tous ces propriétaires, ou des propriétaires qui n'existent pas. La plupart de ces biens sont dans l'indivision. Et on a proposé soit vous le vendez, soit la ville achète pour pouvoir réorganiser, ou nous sommes obligés d'appliquer la boîte de manifeste.
Alors, nous avons posé cette question, Cédric Catan et moi, et nous nous en avons reparlé en préparant cette émission. Nous sommes surpris que cette problématique qui touche la quasi-totalité des communes de Martinique ne fasse pas l'objet d'un consensus au niveau de l'association des maires, ne fasse pas consensus pour une gestion, je dirais, collective auprès des parlementaires. C'est pour ça que la question de Cédric Catan est et demeure, que fait-on ?
Oui, je crois que je pense pas qu'on n'a pas le résultat. Est-ce qu'on
fait pas assez?
Mais aujourd'hui, pas assez. J'ai pris le pari de faire un choix de type d'habitat dans le Beau. Je veux que le Beau soit la base arrière. On n'a pas d'hôtel. C'est le logement,
un petit.
Ouais, oui, on a un petit hôtel. Oui, salut. J'ai des 16,5 chambres. Il y a un autre projet de 20 chambres qui arrive tout après. Et dans le Beau, j'aurais bien vu développer des résidences hôtelières un petit peu partout, pas des petites unités de 10. C'est ça, le développement. Et faire de ce Beau-là une route commerciale en base arrière de notre port de plaisance. C'est ça. Il faut avoir la vision. Maintenant, avec cette vision-là, il faut pouvoir faire l'acquisition des terrains. La ville a pris le pari de prendre tous les terrains qui sont disponibles et de pouvoir les mettre à disposition de promoteurs.
Il nous reste plus beaucoup de temps. José Miranda, j'appelle que vous êtes le maire du Marais. On a quand même parlé, on le disait en introduction, de votre ambition politique. Aujourd'hui, est-ce que vous avez été élu, vous avez écumé les élections, c'est des défaites aussi avant d'accéder à cette victoire. Est-ce que justement ça vous donne envie de continuer? Vous êtes présenté à l'Espace Sud déjà en 2020. Est-ce que c'est aussi une ambition?
Alors
pour 2026,
l'ambition d'être à la présidence de l'Espace Sud, il faut d'abord être maire en 2026. Donc il faut respecter ce choix des électeurs du Marais.
Alors avant 2026. Est-ce que les choses peuvent bouger
Je le dis sur un média, si je suis président, je serai candidat. Si on m'a garanti d'être président, je serai candidat, mais j'ai pas d'ambition particulière d'aller me chahuter avec un collègue du Sud pour être président de l'Espace Sud. Si il y a une tendance me disant, OK, voilà, c'est ton tour, on va te soutenir, oui, mais après, je serai pas dans un combat. C'est clair, net et précis. Hein.
Vous serez dans un combat, monsieur le maire. Ah vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Si vous étiez là, admettons, nous sommes en 2026, vous êtes président de l'Espace Sud. Quelles sont les deux premières mesures que vous prenez?
J'ai une mesure essentielle que je prends, c'est la réelle mutualisation de nos moyens. Ça, je trouve qu'on est pauvre dedans. On est très pauvre de pas pouvoir faire des choses en commun, mettre en commun pour réduire les coûts. Aujourd'hui, je suis désolé, c'est pas la faute à André Le Sieur que je salue, c'est la faute à comment on a mis les choses en place. L'Espace Sud devait être moins. Alors, on est dans le plus. Ça coûte plus cher. Donc, non, mais c'est une réalité, hein, qu'il faut l'avouer. Et c'est ça. Je voulais faire en sorte que cette mutualisation nous permette aux communes de mieux se porter. C'est un petit peu l'une des premières mesures. Et une seconde mesure, c'est l'animation du territoire. Voilà.
Merci, José Miranda, d'avoir été notre invité de ce lundi politique. Merci, Philippe Dizer, pour être là tous les lundis avec moi. Et puis, merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Et puis, quand même, je rappelle, la semaine dernière, j'avais prévu de vous donner les communes limitrophes de Fonds-Saint-Denis. Il y en a 9. Et je vais les donner Saint-Pierre, Morne-Rouge, Carbet, Morne-Vert, Saint-Joseph, Gros-Morne, le Marigot, le Lorrain et Fort-de-France. Voilà.
Et le Gros-Morne, c'est voilà. Bien d'avoir
Et le Gros Morne. J'ai pas dit?
Si.
Ah bon, d'accord, oui.
Je préfère répéter.
D'accord, et le Gros Morne, oui, évidemment, qui sont communes limitrophes du Lorrain. C'est la commune qui comporte le plus de communes limitrophes en Martinique. Il faut le savoir, hein, un peu de culture martiniquaise, ça ne fait pas de mal. Bonne soirée à tous, rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée.
Bienvenue à bord de la DS4, la plus zen des compacts premium. Proportion exceptionnelle, une prestance remarquable. La DS4 est élégante et charismatique. À l'intérieur, vous basculez dans un confort absolu avec des matériaux inédits, tels que le carbone forgé, le frein brun, le cuir grainé ou Nappa.
DS4, voyagez en French class. DS4, disponible chez DS Martinique avec 4 ans d'entretien et garantie offerte. Pensez à covoiturer.
J'ai passé un très bon moment. Ça te dirait d'aller boire un verre quelque part pour faire plus ample connaissance?
Oui, pourquoi pas.
Ah, désolé, elle va démarrer, t'inquiète. Allez, allez.
Écoute, c'était sympa, mais je crois que je vais plutôt rentrer avec ma copine finalement.
Attends Mélanie, elle va démarrer.
Panne de batterie au mauvais moment, heureusement, chez AutoQuick, il y a des batteries à tout moment à 49,99€ seulement. 62 ampères, référence B60 toute l'année.
AutoQuick, l'expert sans concession.
Sac de Rivière Roche.
Mercedes-Benz.
Je vous en prie, installez-vous, je vais prendre vos mesures. Alors la longueur, très bien. La largeur, parfait. Et la hauteur, excellent. Pour la matière, on part sur du cuir? Et pour les finitions, plutôt sport ou plutôt confort?
Rendez-vous chez votre distributeur Mercedes à côté de la Galeria pour les ventes privées taillées sur mesure les 3 et 4 mai 2024. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. L'heure avec BMW Martinique. Des voitures de qualité à prix métropole. Offrez-vous le meilleur. Le top horaire avec l'Express des Îles pour des vacances moins chères.
Vous écoutez RCI, il est 19h.
En avril, les prix Métropole sont garantis sur une sélection de modèles BMW chez 3AM. Hybride rechargeable, berline, modèle électrique ou X, bénéficiez également de la garantie 200 000 km offerte sur la BMW de votre choix. Rendez-vous chez 3AM en avril pour la performance et le style au tarif Métropole.